Je vais vous inviter à ouvrir la Bible dans le livre d'Ésaïe et vous remarquerez que le Saint-Esprit fait bien les choses, puisque un des textes de la Sainte-Seine est une citation de ce que nous lisons maintenant dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 61. Vous savez, quand le Seigneur insiste, c'est qu'il a quelque chose à dire, hein. Alors ça fait partie de plusieurs lectures que l'on va faire pour introduire, donc je ne vais pas m'étendre sur ces lectures à proprement parler, puisqu'il y a beaucoup à dire sur le reste. Mais dans Ésaïe 61, verset 1er, nous lisons ceci. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. » On va s'arrêter là, même s'il y aurait aussi de belles choses à lire par la suite. Mais juste remarquer ceci, le seul commentaire que je ferai, c'est que l'onction du Messie, on comprend qu'il est question du Messie, c'est pour ça que dans la lecture qu'on a entendue, Jésus a pris le rouleau d'Ésaïe et quand il s'est assis, il a dit « Aujourd'hui c'est accompli !» C'est-à-dire l'onction du Seigneur est venue sur Jésus-Christ. Le Messie, ça veut dire simplement celui qui a l'onction. L'onction de l'Éternel est sur Jésus-Christ, s'est posée sur Jésus-Christ et s'est expliqué pourquoi c'est une bonne nouvelle. Vous êtes content que c'est une bonne nouvelle ? Que Jésus a reçu l'onction de Dieu, mais pour faire certaines choses, et particulièrement pour la guérison des cœurs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et il est question de libération, il est question de délivrance, il est question de grâce, il est question de consolation. Mais tout cela, on peut le comprendre de cette œuvre qui se fait à l'intérieur de l'être humain. Paul va parler d'une autre manière de ces choses dans Romains chapitre 12, on a lu un texte dans l'Ancien Testament, on lit maintenant un texte dans le Nouveau et on va rester dans le Nouveau quelque temps. Romains chapitre 12, verset 1er, une exhortation de Paul qui est basée sur rien de moins que les compassions de Dieu. Et on peut savoir quand on l'y a goûté que les compassions de Dieu, elles sont grandes. Elles se renouvellent chaque matin. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si on se pose la question comment offrir un culte raisonnable au Seigneur, il y a la réponse. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ce verset, dans la lignée du précédent, nous montre que quand on abandonne notre vie au Seigneur qui a reçu l'onction pour guérir les cœurs brisés, quand on abandonne tout ce que nous sommes, tous les domaines de notre vie, il va transformer notre intelligence. Il va transformer ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau, de notre cœur. Il va transformer tout ce qu'il y a dans l'être humain, dans l'âme. Il renouvelle nos pensées, il renouvelle nos raisonnements. Et tout ça, c'est une introduction pour parler du verset maintenant qu'on va lire dans 2 Corinthiens, chapitre 10, un texte qu'on a déjà lu il y a quelque temps, mais que le Seigneur m'a mis à cœur de relire et d'insister. Dans le cadre du combat spirituel, souvent on oublie que le combat, il commence d'abord à l'intérieur de nous. Avant de pouvoir combattre pour les autres, il faut combattre à l'intérieur de nous. Et c'est ce que Paul raconte dans cet épître des 2 Corinthiens, verset 3. Si nous marchons dans la chair, donc si nous sommes dans des corps de chair, hein, tout simplement, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Le combat spirituel est une réalité, il est rappelé dans ce texte, et ce texte nous rappelle aussi qu'il y a une arme efficace, puissante, une arme spirituelle qui peut permettre aux chrétiens, aux croyants, de remporter des victoires, de vivre la réalité de la foi dans les choses concrètes de la vie. Et cette arme, c'est d'amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire, en gros, pour résumer, faire le tri dans nos pensées, dans notre intelligence, dans nos raisonnements. Faire le tri par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas de se faire des bonnes résolutions. Ce n'est pas d'essayer de changer par soi-même, parce qu'on sait que ça ne marche pas. On va voir encore plein de gens qui vont, le 31 décembre, faire de bonnes résolutions et réussir à s'y tenir pendant quelques jours, quelques semaines, et puis après, tout abandonner. Mais ce n'est pas ça dont il est question. Il est question de cette détermination de la foi qui s'appuie sur l'œuvre de la croix. De ça, cette foi qui s'appuie sur ce qui a été accompli à la croix, la victoire remportée à la croix, peut se manifester dans notre vie si on laisse le Seigneur agir. Amen. Mais pour cela, il faut faire le tri. Parce qu'il y a, et Paul il insiste, il dit des images, il y a des forteresses, il y a des hauteurs, il y a des choses qui sont là et qui peuvent sembler difficiles à détruire. Mais si on amène nos pensées captives à l'obéissance, cela nous donne la possibilité de renverser les raisonnements, renverser les forteresses, les hauteurs, vous savez, ces endroits où on se réfugie, où on pense que dans tel domaine on est assez fort, on n'a pas besoin de l'aide de Dieu, on a telle qualité donc on n'a pas besoin que le Seigneur nous aide. Mais ça c'est une hauteur, un raisonnement qui nous fait croire. Même si on a des qualités, on a tous des qualités différentes. Mais même dans nos qualités, on a besoin de l'aide du Seigneur, on a besoin de la fraîcheur du Saint-Esprit sur notre vie, parce que sinon c'est quelque chose, une cymbale qui retentit, ça n'apporte pas ce que cela doit apporter. Le Seigneur est celui qui nous aide. Et un verset qui nous permet, et ça sera le dernier verset d'introduction, un dernier verset qui nous permet de comprendre comment trier nos pensées, quand j'ai lu la première fois ce verset-là de 2 Corinthiens, tout de suite j'ai pensé à Philippiens. Philippiens 4.8 nous parle comment de manière pratique, concrète, dans notre cœur, se poser les bonnes questions pour faire le tri dans nos pensées. Philippiens chapitre 4 verset 8. Au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Combien veulent que le Dieu de paix soit avec eux? On est tous candidats. Et on a la recette, qui n'est pas un secret. Elle est décrite là simplement pour pouvoir avoir la certitude que le Dieu de paix est avec nous dans nos combats, dans nos difficultés. Il est là, il faut savoir maîtriser ses pensées. Savez-vous qu'en Jésus-Christ, nous avons la capacité, la maîtrise de soi, ça veut dire aussi la maîtrise de ses pensées. Ça veut dire la maîtrise de ce qui se passe à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que je maîtrise tout ce qui rentre, parce qu'on sait qu'on est inondé de plein de choses. Je maîtrise certaines choses qui rentrent. Mais il y en a certaines, je me promène dans la rue, je vois des choses, ça rentre. Mais j'ai la maîtrise sur ce que je fais de la pensée. Est-ce que je la conserve? Est-ce que je la chéris? Est-ce que je la sers? Ou est-ce que je la rejette? Est-ce que je la rends captive à l'obéissance de Christ? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? La parole me dit que c'est pas bien, donc je le fais pas. Que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas honorable, etc. Dans ce texte, vous trouvez toutes les questions qu'il faut se poser. Et il y en a beaucoup, hein. Si on fait une par une, alors on va en faire quelques-unes, mais je ne sais pas si on aura le temps de tout voir, c'est sûr que non. Peut-être 3 ou 4, maximum. Mais se poser la question, est-ce que tout ce qui est vrai est l'objet de mes pensées? Et le pendant de cette question, c'est de réaliser qu'il y a des forteresses que l'ennemi emploie pour même parfois bloquer les croyants dans leur foi. Par exemple, la forteresse du mensonge. Dieu peut bloquer quelqu'un avec un mensonge et l'empêcher de progresser. Je pensais, alors là c'était pas un croyant à l'époque, mais je pensais à l'exemple de ce geôlier de Philippe. Vous savez, ce geôlier qui était le gardien de Paul et Silas. Paul et Silas, pendant la nuit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans leur détresse, ils se sont mis à pleurer. Oh là là, Seigneur, on n'en peut plus, c'est trop dur. C'est ça qu'ils ont fait? Non, ils ont chanté les louanges et les cantiques du Seigneur, de tout leur cœur, avec tellement de conviction qu'à un moment donné, le Seigneur a permis qu'il y ait un tremblement de terre, tout soit démoli, les portes se s'ouvrent, tout est. Et là, et forcément, le geôlier, qu'est-ce qu'il a? Il a craint pour sa vie. Il a craint pour sa vie parce qu'il avait peur que les prisonniers s'en aillent. Et réfléchissez dans le raisonnement du geôlier. Réfléchissez. Est-ce que les portes se sont ouvertes de la prison? Est-ce que c'était vrai? Oui. Est-ce que les prisonniers se sont enfuis? Non. Mais ça, il pensait que oui. Est-ce que les autorités avaient demandé de les garder particulièrement, ces prisonniers? Oui. Est-ce qu'ils devaient être punis sévèrement si les prisonniers s'étaient enfuis? Oui. Et donc, il s'est dit avec son raisonnement où il y avait un seul maillon qui était faux dans l'histoire, il a failli se mettre à mort. Il a failli se suicider. Heureusement, Paul a dit, ne t'inquiète pas, on est là. Mais vous voyez comment l'ennemi, des fois dans un maillon de notre raisonnement, est capable de nous piéger et de nous conduire dans des choses qui nous amènent à la mort. Mais, heureusement, le Seigneur, il a une bonne nouvelle. Il est revêtu de l'onction pour annoncer des bonnes nouvelles. C'est qu'il veut mettre la vérité dans notre cœur. Il veut que les forteresses de mensonges soient renversées dans nos pensées et que la grâce du Seigneur nous envahisse. Vous savez, quand on est pasteur, on entend beaucoup de choses avec les années. On pourrait faire une liste, on pourrait faire des livres. Des fois, on se raconte les expériences. Monsieur Bordenave, je suis sûr qu'il aurait des volumes comme ça à faire. Mais c'est incroyable. Et des fois, dans toutes les choses qu'on peut nous dire, de fausses espérances dans lesquelles les gens vont se réfugier pour ne pas obéir. Et ça devient des forteresses. Je me souviens. Ce que je lisais, et je m'aperçois que c'est pas de maintenant, ça date même depuis le temps de la parole de Dieu, mais même dans les années, le pasteur Finney racontait un jour que c'était dans un temps de réveil, beaucoup s'étaient convertis, il y avait un chef de cabinet dans un cabinet d'avocat, il est venu dans des réunions de réveil, il a été touché, il a compris qu'il était pécheur, et il était vraiment dans la tristesse parce qu'il est resté à cette étape. Il est pécheur, il a compris qu'il a fait le mal dans sa vie, qu'il doit vraiment se repentir, mais il n'arrivait pas à avancer à l'étape suivante, sous la conviction qu'il était un pécheur, mais il en restait là. Et donc il était malheureux, il maigrissait, il avait les traits tirés, on aurait dit qu'il était dans le deuil. Pendant des semaines, ça a duré, et ce qui était intéressant, c'est qu'un jour, il a entendu des gens qui disaient, j'ai tellement été touché par le Seigneur, je suis allé dans les bois, je suis allé chanter, louer le Seigneur dans les bois, dans la nature, ça m'a fait du bien. Je sais pas si vous l'avez déjà fait d'ailleurs, mais ça m'est arrivé souvent de faire des camps à Gap, par exemple, et le matin, mon régal, c'était de me lever tôt avant tout le monde et d'aller dans la nature voir le lever du soleil et louer le Seigneur. Ça, c'est un aparté. Mais je sais combien c'est bon. Mais cet homme, il a dit, moi, jamais je ferai ça. Jamais j'irai prier dans les bois. Bon, il n'y a pas une obligation, c'est pas marqué dans la parole. Il faut que vous alliez, le 11e commandement, tu devras aller prier dans les bois. D'accord? C'est pas marqué. Mais cet homme s'est tellement braqué contre cette idée que c'est devenu un obstacle dans ses pensées. C'est devenu une forteresse de raisonnement qui l'a empêché d'aller plus loin dans la repentance. Et cet homme en est resté là et resté là. Il en était même au point de dire, je vais essayer de compenser. Je ne vais pas faire ça, mais je vais compenser. Alors même dans la rue, il se mettait à genoux dans la boue et il priait devant tout le monde. Mais malgré tout ça, ben, il n'y a rien qui s'arrangeait en lui. Il n'avait jamais la paix. Et au contraire, il était de plus en plus sous l'oppression de son péché, de la peur de la mort, etc. Jusqu'au jour, vous savez ce qu'il a fait? Ben, il est allé dans les bois. Et là, dans les bois, il a été visité par le Seigneur, il s'est converti, il a commencé à chanter, à crier plus fort que toutes les personnes qui pouvaient y avoir. Et il a rendu le témoignage que Dieu avait agi dans sa vie. Tout ça parce qu'il a amené sa pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors lui, pour lui, c'était d'aller dans les bois. Je ne vous dis pas que vous allez être visité si vous allez au bois d'Auch. D'accord? C'est pas ça la pensée. Mais c'est de se dire, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui pourrait être quelque chose qui bloque? Vous savez, on entend des fausses espérances, je le disais. Cette fausse espérance de se dire, tu as le temps de faire ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Tu as le temps de le faire plus tard. Si Dieu te demande aujourd'hui de faire certaines choses, ne le fais pas plus tard. Ça, c'est un mensonge du diable. Combien de jeunes à qui j'ai pu parler me disaient, ah, mais c'est bien, c'est intéressant, la Bible, c'est super, mais je veux vivre ma vie. Je veux voir comment c'est dans le monde. C'est combien c'est dangereux. Et ça, c'est une forteresse, un mensonge qui nous tient et qui peut nous amener jusqu'à la mort parce que notre vie ne nous appartient pas. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on va pas mourir demain. C'est pas parce qu'on est âgé qu'on va mourir forcément demain. Ça, c'est vraiment ça. Regardez même dans le monde, hein, je parle pas que dans l'église, mais dans le monde, ça ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est d'entendre la voix du Seigneur. Est-ce que vous connaissez des versets avec aujourd'hui? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Et je crois que la parole de Dieu nous donne une voix claire du Seigneur. Et ce qu'il nous dit ce matin, à nous d'y répondre. Pas en disant, je verrai plus tard. Si, ça m'intéresse. Aujourd'hui. Voici le jour du salut. Ou aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si quelqu'un dans ce lieu n'est pas sauvé, n'a pas fait la paix avec Dieu, ne remettez pas à plus tard. C'est aujourd'hui, le Seigneur vous demande aujourd'hui de vous convertir afin qu'il puisse pardonner votre péché. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ah, mais la parole de Dieu, on n'a pas besoin de la lire tous les jours. Ouais, mais alors il ne faut pas prier le Notre Père et il ne faut pas avoir une Bible dans les mains parce que c'est ce qu'elle dit, hein. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Chaque jour, Seigneur, je veux te demander cela. Ce que tu penses, une autre et fausse espérance, ce que tu penses est plus important que ce que Dieu dit. Vous savez que nos pensées vont passer, mais la parole de Dieu ne passera point. Le monde et la terre vont passer aussi, avec nous, avec nos pensées, nos corps, mais la parole du Seigneur va s'accomplir. Il y a des fois des pensées qui sont contraires à la parole de Dieu. Et on a besoin de nous soumettre, de rendre nos pensées captives à l'obéissance, c'est de se soumettre à ce que dit la parole de Dieu. Une autre fausse pensée que l'ennemi aime bien mettre dans notre esprit, si Dieu n'agit pas comme tu veux, quand tu veux et où tu veux, alors c'est qu'il n'est pas assez puissant ou qu'il n'existe pas. Sauf que, est-ce que déjà le Seigneur a agi exactement comme vous vouliez? Qui peut donner ce témoignage? Exactement dans tous les détails, c'est exactement ce que j'ai demandé. Mais non. À chaque fois, Dieu s'y prend à sa manière et c'est la meilleure manière. Amen. Dieu est un Dieu qui surprend dans sa façon d'agir. Des fois, on se fait notre plan, et ça, c'est le danger de dire je veux que Dieu fasse comme ci, comme ça. Je repense à l'histoire de Naaman qui avait dit le prophète va venir, il va faire une incantation sur moi et je vais être guéri. Le prophète, il s'est même pas déplacé pour aller le voir. Il a envoyé son serviteur. Et Naaman, il était outré. C'est ça tout l'honneur qu'on me réserve à moi qui suis le chef de l'armée? Et en plus, il me demande de me mettre en sous-vêtements et de me plonger dans le fleuve du Jourdain. Eh bien, j'ai des fleuves plus jolis à la maison, je vais aller là-bas. Est-ce que ça l'a guéri? Cette forteresse d'opposition, la vérité a été proclamée par la bouche du prophète et on s'oppose avec des raisonnements. Heureusement, il avait des serviteurs intelligents qui ont su trouver les mots pour le convaincre en lui disant, mais il ne te demande pas un trésor, il ne te demande pas des choses difficiles, de déplacer des montagnes. Si tu fais ça, tu vas être guéri. Ça vaut la peine d'essayer. Frères et sœurs, oh, si je pouvais vous le dire de tout mon cœur, j'essaye de le faire, mais ça vaut la peine de rendre nos pensées captives à l'obéissance de Christ. C'est une arme puissante. C'est quelque chose qui permet de renouveler notre intelligence, de transformer nos pensées, qui permet que les choses à l'intérieur changent, que là où il y a des forteresses, ça soit brisé, là où il y a des hauteurs, ça soit aplani, parce que c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Mais il faut que nous, on se mette devant le Seigneur, à genoux, dans la soumission totale et complète. Vous savez, il y a un mot que j'aime bien, qu'on n'emploie pas beaucoup. Heureusement, parce que c'est dans un contexte un peu de guerre, de combat, c'est la capitulation. Quelqu'un qui capitule, ça veut dire qu'il dépose les armes devant l'adversaire. Mais je ne parle pas de quelque chose de négatif. Je parle de la capitulation de l'être humain devant la puissance, la sainteté et la grandeur de son Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre et de développer. Parce que c'est ça le secret de l'arme puissante. Prendre ses pensées captives, c'est dire, Seigneur, toutes mes armes, tout ce que je crois qui est fort, qui est grand, qui est beau en moi, je le dépose, je le remets devant toi. Fais-en ce que tu veux. Peut-être que tu me demanderas de plus y toucher. Eh bien, tant mieux. Peut-être que tu vas le changer, le transformer par ta grâce et me permettre d'être un instrument. Tant mieux. Peu importe. Ce que toi, tu veux, c'est ça que je veux faire. Amen. Dieu agit toujours à sa manière. Et sa manière, c'est la meilleure. Voilà pourquoi il faut se soumettre à lui. Tout ce qui est, que tout ce qui est vrai soit l'objet de nos pensées. Renversons dans nos cœurs la forteresse du mensonge. Alors j'en ai cité, je pourrais, comme je vous le disais, on pourrait écrire des livres sur toutes les fois où on nous a sorti des argumentations pour ne pas obéir à la parole de Dieu. Mais le plus important, c'est pas de savoir tout ce qui existe, c'est de savoir qu'est-ce qui existe en moi. Seigneur, sonde mon cœur, mon esprit, montre-moi s'il y avait une forteresse de mensonge qui m'empêche d'avancer et que ton Saint-Esprit vienne la renverser. Que tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Qu'est-ce que c'est l'antonyme de l'honneur? D'honorer quelqu'un. C'est quoi le contraire? Le déshonneur, oui. Un terme plus récent, on va dire. Mépriser. D'accord? C'est la même chose, hein? Ça veut dire exactement pareil. Mais le mépris. Honorer quelqu'un, ça veut dire donner de l'honneur à quelqu'un. Honorer le Seigneur en tant que croyant, ça rejoint la crainte de Dieu, c'est exactement l'état de cœur que l'on doit avoir. Mais parfois, il y a des forteresses de mépris. Il y a des attitudes dans nos vies qui sont méprisantes et qu'on a besoin de déloger afin qu'on ne soit pas bloqué dans notre vie spirituelle. Le mépris, c'est regarder de haut, avoir la pensée hautaine, cette pensée qui dit « moi je fais mieux que les autres, moi je sais mieux que tout le monde ». C'est aussi de ne pas considérer ce qu'on me dit, ne pas reconnaître la valeur. Faire pour Dieu mais en traînant la patte, le mépris. Apporter du feu étranger, vous vous souvenez, il y a des Lévites qui ont apporté du feu étranger. C'était pourtant le feu dans le sein du temple. C'était normal, ça devait être là. Sauf qu'ils ont apporté pas comme Dieu avait demandé. Et vous savez la suite. Ça s'est mal passé pour eux. Parce qu'ils ont fait les choses, mais à leur façon. Et ça, c'est mépriser le Seigneur. On peut faire des choses pour Dieu, mais si on le fait en traînant la patte, si on le fait à moitié, si on le fait sans se donner entièrement, et je vous rappelle le verset de Romains, offrez vos corps comme des sacrifices vivants. C'est ça que Dieu, il attend simplement. Il n'attend pas qu'on soit des gens extraordinaires, mais il attend qu'on fasse tout notre possible pour lui. Et dans tout notre possible et sa grâce, ça va amener à faire des choses extraordinaires. C'est ça qui est merveilleux. Hier, on parlait avec les jeunes de Goliath. Vous avez vu comment Goliath, il regardait David? Déjà, il était en position dominante. Hein, il avait l'armure, il avait les muscles, il avait la taille, il avait les armes, il avait tout. Et comment il fait? Il regarde David. Déjà, il devait faire presque deux fois moins que lui. Mais il est dit, lorsque le Philistin regarda et qu'il aperçut David, il le méprisa en ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Pouh, qu'est-ce qu'il va faire ce genou-là? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Qu'est-ce qu'il vient faire sur un champ de bataille? Tous les soldats, ils sont en arrière, c'est un genou qui vient. Mais c'est exactement ça. Et il est même dit, la réaction... Il a maudit David au nom de ses dieux. Un regard de mépris. Alors là, c'est un païen, c'est un philistin. C'est l'image de quelqu'un qui est totalement contraire au Seigneur, qui touche à des pratiques occultes. Bref, donc on comprend que lui soit dans une forteresse de mépris. Mais parfois, on peut se faire piéger dans la façon dont on agit. Voilà pourquoi c'est bon ce matin de rappeler ce que le Seigneur nous demande d'honorer. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ça fait partie des 10 commandements. Hein. Lévitique, nous dit « Tu te lèveras devant les cheveux blancs. Tu honoreras la personne du vieillard. Honorer les anciens. » Ça, c'est important. Alors, j'ai quelques cheveux blancs, mais je ne me considère pas encore comme vieillard. Mais par contre, j'ai à cœur d'honorer ceux qui sont plus âgés. C'est normal. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Et regardez notre monde, où souvent, entre générations, on se coupe les uns des autres. Et l'Église, c'est justement ce merveilleux moyen d'unir toutes les générations ensemble. Il n'y a que le Seigneur qui est capable de faire ça. Mais d'avoir ce moment où on est dans la communion, quel que soit l'âge, quel que soit le plan social, quelle que soit l'origine d'où on vient, on est ensemble. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Honorer Dieu avec nos moyens. Honorer aussi le pauvre en venant à son aide par les moyens que le Seigneur nous permet de faire. Peu importe, mais tout ça, c'est une manière d'honorer, de développer l'honneur et de permettre aux forteresses de mépris d'être abaissées, d'être renversées dans notre vie. Je pourrais continuer, la liste est longue, dans tout ce qui doit être honoré d'après la parole de Dieu. Honore le mariage, que le mariage soit honoré de tous. Honorer les veuves, les épouses, tout le monde. Bref, vous lisez la parole, vous verrez. C'est très riche. Mais Seigneur, je veux m'appliquer à ces choses. Ce que toi tu dis qui est important, qui mérite l'honneur, je veux y donner de l'honneur, Seigneur. Parce que sinon je vais m'enfermer dans un mépris. Et aujourd'hui, parce que la société de manière générale rejette Dieu et la Bible, on s'aperçoit que c'est un chemin qui est en train d'être pris où chacun se renferme sur soi. Et on a du mal, même parfois, ça vous est déjà tous arrivé, de voir quelqu'un, une personne âgée dans un transport en commun. Eh bien, des personnes jeunes se lèvent même pas pour laisser la place. Avant, c'était normal. C'était presque tout le monde qui regardait le jeune pour lui dire « c'est pas bien ce que tu fais ». Maintenant, tout le monde s'en fiche. Excusez-moi l'expression. Mais c'est pas parce que tout le monde ne le fait pas que moi, je vais pas le faire. Et moi, je veux avoir cet honneur pour ceux qui sont autour de moi. Est-ce que vous pensez que les pharisiens étaient des personnes qui honoraient les autres? C'est tout le contraire. Ce qui est fou, c'est qu'ils étaient capables d'être dans une forteresse de mépris et de croire qu'ils étaient super spirituels. C'est là où on voit combien l'aveuglement de ceux qui ont du mépris dans le cœur peut être dangereux. Parce que ça nous fait croire qu'on est dans une situation alors qu'on est à l'opposé. Il suffit de voir comment Jésus leur parlait pour comprendre que c'était grave. Jésus va leur dire à un moment donné: Dieu a dit, honore ton père et ta mère, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Ça c'est dans la loi. Mais vous, vous dites, vous les pharisiens, vous enseignez, celui qui dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, c'est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Ils étaient capables de faire des traditions hyper spirituelles. Ah, je suis désolé, je ne peux pas venir à ton aide parce que je dois faire une offrande à Dieu. Mais qu'est-ce qui t'empêche de faire l'offrande et d'aider aussi, hein, de faire les deux? Mais non, ah non, je ne peux pas honorer mon père ou ma mère parce que je dois faire une offrande à Dieu. Faire passer pour spirituel notre péché, il faut le faire quand même. Mais c'est ça, quand on a développé le mépris, l'indifférence par rapport aux autres, on est capable de faire tout et n'importe quoi. Mais que le Seigneur nous aide. Si on a à cœur, si on offre nos cœurs et nos corps au Seigneur en disant « Je suis un sacrifice vivant pour toi, je rends mes pensées captives à ton obéissance. » Le Seigneur va changer tout ça. Le Seigneur va nous donner d'être des hommes et des femmes qui font du bien autour d'eux, par leurs attitudes, par leurs paroles. Hier, c'était quelque chose qui n'était pas prévu, qui s'est passé. Il y a eu un rayon de soleil. Je vous le raconte, c'est entre nous. Il y a eu un rayon de soleil qui est sorti, donc on s'est dit on va aller jouer avec les enfants, devant la salle des fêtes. Et juste, on a joué quoi, 15 minutes au foot, et puis on voit plein de voitures qui arrivent. En fait, il y avait une corvée de nettoyage des feuilles devant la salle des fêtes. Et nous, on était là, on s'est dit on va aider, ça va être l'occasion de connaître le maire qui était là, d'autres personnes du conseil d'administration, etc. On a passé un excellent moment, et le moment c'était quoi? De pousser des feuilles avec un balai. Oh, que c'est glorifiant. Mais combien on était heureux avec mon épouse, parce qu'on s'est dit, mais Seigneur, il a conduit. Parce qu'on prie pour notre village, on prie pour les personnes qui sont autour de nous. Et là, c'était un moyen tout simple d'honorer, parce que je voyais, il y avait des personnes qui étaient là, qui allaient travailler, mais qui le faisaient un peu à contre-cœur. Et nous, on avait le temps, on avait l'envie, on avait la joie, ben on l'a fait de tout cœur. Honorer. Honorer les autorités. Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire, hein. Ça ne veut pas dire être d'accord avec tout ce qui se passe, parce que c'est difficile là, hein. Mais à respecter, la parole de Dieu le dit, il y a des autorités qui ont été mises en place. Et Dieu dit que même tous les rois, c'est lui qui les a mis en place. C'est pas évident à comprendre, mais il faut l'accepter. Mais on doit être dans le respect, pour ne pas tomber dans le mépris. On doit renverser la forteresse du mépris et laisser tout ce qui est honorable être l'objet de nos pensées. Je vais terminer avec ce point. On va en sauter plusieurs. Que tout ce qui est aimable soit l'objet de vos pensées. Qu'est-ce que c'est le contraire de ce qui est aimable? On pourrait dire ce qui est haïssable, sans trop se mouiller. D'accord? Si on étudie le mot, les pensées aimables, littéralement, c'est un mot qui est composé comme pro-amitié. Vous savez, ceux qui sont pro-Macron, par exemple, ou pro-Mélenchon, pour pas faire de. ou pro-ceci ou pro-cela. Ceux qui sont en faveur d'eux, qui sont agissants, qui sont vraiment. Qui soutiennent. Mais là, le mot en question, c'est ceux qui sont pro-amitié fraternelle. Ceux qui sont dans cet amour qui les pousse à agir, à faire quelque chose. Que tout ce qui est aimable dans ce sens-là soit l'objet de vos pensées. Qu'est-ce que je peux faire comme qui va montrer mon amour fraternel pour mon frère ou pour ma sœur? C'est ça. C'est quelque chose qui nous pousse en avant. Je me souviens, pour montrer le contraire qui peut se passer, je me souviens d'une situation où on parlait avec quelqu'un d'une autre personne. Ça faisait 15 ans qu'elle était fâchée avec une personne. 15 ans qu'elle était fâchée. Et quand on parlait avec la personne fâchée, on avait l'impression que c'était hier qu'elle avait eu le problème. Vous imaginez, pendant 15 ans, tourner en rond dans votre cœur et prisonnier du ressentiment, de l'amertume, de la souffrance. Est-ce que ça, on peut dire que c'est une prison? C'est évident. Et souvenez-vous, le premier verset, l'onction du Seigneur est sur nous et vient guérir les cœurs pour délivrer les captifs. Le Seigneur veut délivrer s'il y a des forteresses de haine ou de ressentiment ou d'amertume par rapport à des choses qui se sont passées. Parce qu'on a tous connu des temps difficiles, hein? On a tous connu des moments compliqués, mais on a tous connu aussi, si on l'a laissé rentrer au plus profond de nous, la grâce de Dieu qui nous permet d'effacer le passé. Alors il y a des conséquences qui perdurent, mais il y a la grâce de Dieu qui nous permet de tenir bon, qui nous permet d'avoir ce cœur qui est guéri, d'être cicatrisé, d'être par la grâce de Dieu encouragé, même à porter, à consoler ceux qui connaissent des temps pareils. Je repensais à l'exemple de Joseph. Joseph. Quand son père est mort, vous savez, quand toute la famille est venue en Égypte, les frères, ils ont eu peur. Regardez, on va lire ce dernier verset, Genèse 50. On revient dans l'Ancien Testament. Joseph aurait pu choisir la forteresse de la haine, parce que ses frères, quand même, ils ont mis le paquet contre lui, hein. Si vous connaissez l'histoire, vous savez ce qu'il a subi, et ça n'a pas duré quelques semaines, quelques mois, ça a duré des dizaines d'années. Les conséquences. Mais il a toujours refusé de tomber dans la haine, refusé de tomber dans le ressentiment, refusé de tomber dans la vengeance. Il a choisi d'être aimable envers ses frères. Genèse 50, verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent: Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Même eux, ils en étaient conscients. Et ils firent dire à Joseph: Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph: Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Regardez bien ce qu'il dit. Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à quoi? À leur cœur. Amen. Il y en a bien un qui connaissait déjà avant l'heure l'onction de Dieu qui guérit les cœurs. C'est Joseph. D'ailleurs, c'est un type de Christ dans la Genèse. Mais Joseph n'a pas choisi le chemin de la vengeance, de la haine, de dire ben, « Maintenant que mon père est plus là, je vais m'occuper de mes frères. » Non, il avait déjà pardonné en fait. Hein. Même dans sa prison, lui il a connu la vraie prison, alors qu'il n'avait rien fait du tout. Même il a été pur. Il a choisi le chemin de la pureté, que tout ce qui est pur soit l'objet de... Bon, c'est sûr qu'il n'avait pas le verset que l'on a de Philippiens, mais il en avait un pareil dans sa tête. Hein. Et dans son cœur surtout. Il a choisi ça. Et malgré toutes les prisons, les souffrances qu'il a subies, il a accompli le plan de Dieu dans sa vie. En fait, c'était le plan de Dieu pour qu'il soit une bénédiction. Vous connaissez, il a été ministre en Égypte. Il a permis que la famine ne frappe pas ce pays et tous les pays aux alentours. Enfin, en tout cas, qu'elle ne frappe pas en faisant des morts, parce qu'il a permis de faire les réserves. Mais cet homme a choisi d'être aimable, d'avoir cet amour qui est capable de pardonner, qui est capable de renoncer à ce qui est des douleurs du passé. Je le disais, on a tous connu des temps comme ça, mais la puissance du Saint-Esprit est là ce matin encore. Et si nous ouvrons notre cœur à sa présence de manière simple, Seigneur, tu vois, j'ai encore ça contre telle personne. Seigneur, viens me donner la force d'abandonner. Je veux rendre mes pensées captives. Je ne veux pas le faire demain ou dans 50 ans. Je ne veux pas attendre 15 ans avant de le faire. Parce que vous savez, quand on voit les personnes qui gardent ces choses pendant des années, même à un moment donné, leur corps, ils portent la marque du non-pardon, de l'amertume. Ce sont des choses qui sont dangereuses. C'est pour ça que Dieu a revêtu Jésus-Christ de la puissance, de l'onction du Saint-Esprit pour guérir les cœurs, parce qu'il sait le danger, l'horreur, la gravité de ces choses qui perdurent dans notre cœur. Et c'est pour ça qu'il se propose encore ce matin à nous guérir. Amen. Fermons les yeux quelques instants. Prenons ce temps, pas comme une coutume, mais comme un temps où nous voulons mettre notre cœur devant le Seigneur, exposer notre âme devant notre Dieu. Il n'y a rien de caché devant notre Seigneur. Tout est nu et à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. C'est ce que nous dit cette parole de Dieu. Ce matin, mon frère, ma sœur, n'y a-t-il pas une pensée qui est là? Un raisonnement qui est là, une façon de faire qui est là et qui perdure, ou quelque chose à quoi tu t'es déterminé à ne jamais faire, et que tu te rends compte que ça devient un obstacle pour toi. Simplement, ce matin, demande au Seigneur son secours, et dis-lui, Seigneur, en attendant que tu me secours, je veux offrir tout mon corps comme un sacrifice vivant. Dans tout ce que tu vas me dire, dans tout ce que tu vas me révéler, dans tout ce que tu vas m'indiquer pour ma vie, je veux le faire sans restriction, sans limite, Seigneur. Je veux honorer, je veux aimer, je veux marcher dans la pureté. Je veux, Seigneur, serrer ta vérité contre mon cœur. Le Saint-Esprit, ce matin, est là. Est-ce qu'il va trouver la porte de ton cœur ouverte? Ou est-ce qu'il va trouver quelqu'un qui se cache dans une forteresse? Mais si tu es dans la forteresse et que tu tends la main au travers, le Seigneur va faire exploser ce qui te bloque. Qui ce matin va dire, Seigneur, viens me secourir? Viens, Seigneur, changer mon cœur. Viens transformer mon intelligence pour que je discerne quelle est ta volonté. Pour que les choses dans ma vie de tous les jours changent. Pour que, Seigneur, il y ait des choses qui changent même autour de moi. Qu'il y ait ce changement perceptible, même par les autres. Ce matin, criez à votre Dieu. Je ne parle pas de cette prière à haute voix, mais je parle de ce cri du cœur. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que ta parole est puissante et nous parle d'armes puissantes quand nous amenons nos pensées captives à cette parole, quand nous choisissons de nous soumettre à ta volonté. Seigneur, il y a quelque chose qui se passe en nous, quelque chose qui se brise en nous par ta puissance. Merci d'être celui qui a reçu l'onction de Dieu. Merci d'être celui qui est revêtu d'onction encore aujourd'hui. Merci d'être celui aussi qui est passé par la mort et par la résurrection. Et parce que tu es vivant et parce que tu as l'onction ce matin, tu peux guérir les cœurs qui sont brisés. Tu peux guérir les cœurs qui sont captifs. Tu peux guérir les cœurs qui sont, Seigneur, dans le deuil. Tu peux guérir les cœurs qui sont fatigués, chargés. Et tu peux donner le repos, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons à toi. Nous ne venons pas à un homme, nous ne venons pas à une idée, à un principe philosophique, mais nous venons à quelqu'un qui est bien vivant et qui agit encore aujourd'hui par sa puissance. Merci Éternel d'agir dans le cœur de mes frères, de mes sœurs, dans nos cœurs Seigneur. Combien nous avons besoin de toi, et afin que ce qui nous bloque, ce qui est un obstacle en nous soit brisé et que nous puissions avancer avec joie dans la communion fraternelle et dans la manifestation de ta présence. Merci pour l'œuvre que tu accomplis, Seigneur. Amen.